Talim.
Talim.
Talim. Vous êtes dans cette tension entre la fluidité d'une langue, la mobilité d'une langue,
Talim.
Et puis les différences de statut qu'elle traverse en tant que langue véhiculaire.
Et peut-être que ce qu'on voit le plus au théâtre vient de l'oreille. Le théâtre n'est pas un art visuel, c'est un art de l'imaginaire.
Talim. Talim.
S'anime.
En mars 2021, un porte-conteneur japonais géant, le Ever Given, se retrouve en travers du canal de Suez. Pendant 6 jours, l'un des couloirs commerciaux les plus importants du monde est bloqué. Les images font le tour du monde. Un minuscule bulldozer face à la proue massive du navire. Et tout à coup, par ce fait divers, ce canal vieux de plus de 150 ans revient au centre de l'actualité mondiale, de la géopolitique. Mais que savons-nous vraiment du canal de Suez, de son histoire coloniale, de son impact sur l'Égypte et de ce que la littérature a pu en dire? Bonjour et bienvenue sur Talim s'anime, le podcast du laboratoire Talim où des chercheuses et des chercheurs en littérature et histoire des arts partagent leurs travaux, leurs questionnements et leurs découvertes. Je suis Peggy Cardon et pour répondre à nos questions, je reçois Sarga Moussa, qui est directeur de recherche au CNRS et directeur du laboratoire Talim. Il est spécialiste de la littérature de voyage et des imaginaires de l'Orient. Il est le co-directeur avec Randa Sabri de l'anthologie « Le canal de Suez » au prisme de la littérature et de l'histoire, publiée chez UGA Éditions en 2024. Un ouvrage qui rassemble des textes européens et égyptiens de 1850 à 1975 pour faire émerger une autre histoire du canal, plus littéraire, plus critique et méconnue. Sarga Moussa, bonjour.
Bonjour.
Dès l'introduction de l'anthologie, vous écrivez que le canal de Suez est un mythe. Qu'est-ce que cela signifie exactement ?
Il est un mythe d'abord au sens d'un récit de fondation, hein, d'un récit qu'on pourrait dire originaire ou qui prétend l'être. Et de fait, les premières tentatives de creusement remontent à l'ère pharaonique, en l'occurrence au pharaon Sésostris III. On est en 1850 avant Jésus-Christ. Il s'agissait à l'époque de relier la mer Rouge à une branche du Nil. Et puis, il y eut d'autres tentatives au cours du temps, par exemple au moment de la conquête arabe. Hein, et à chaque fois, le canal s'est ensablé. Mais le souvenir en est resté. Il a encore été réactualisé au moment de l'expédition d'Égypte de Bonaparte. En 1869, après un chantier qui dura une dizaine d'années, pharaonique, comme on dit parfois, lancé par Ferdinand de Lesseps, avec l'accord évidemment du Khedive Ismail, et puis encore avant lui, Saïd Pacha, qui accorda la concession du canal, c'est donc en 1869 que ce canal fut ouvert en grande pompe. Hein. À ce moment-là, évidemment, il y a une sorte de retournement qui s'opère. Ce canal qui, au départ, s'ancrait, on va dire, dans la mémoire orientale, égyptienne, pharaonique, devient un canal français. Celui qu'on célèbre, c'est Ferdinand de Lesseps, qui est quasiment érigé au rang de dieu moderne du progrès. Hein. Et donc, on passe ainsi d'un canal égyptien à un canal français.
Et d'ailleurs, vous avez choisi finalement de prendre comme angle d'approche la littérature. Pourquoi avoir choisi cet angle d'approche pour raconter l'histoire du canal ?
Alors, il faut d'abord préciser que Randa Sabri et moi entendons la littérature dans un sens large, hein, pas seulement donc comme fiction, ça a été longtemps la façon d'entendre la littérature, mais aussi comme des textes relevant du registre factuel, des récits de voyage par exemple, ou alors des corpus populaires, des chansons arabes qui ont été traduites pour la circonstance. Et donc, c'est l'occasion pour moi de rendre hommage au travail de mes collègues égyptiennes. Hein, il y a une petite équipe qui a été réunie autour de Randa Sabri, qui s'est chargée de la traduction de nombre de textes qui vont être une découverte pour les lecteurs francophones. Hein. J'insiste là-dessus, la fabrication de cette anthologie, c'est une de ses spécificités, repose bel et bien sur un travail collectif. Et pour revenir à la littérature, il est frappant de voir que le canal, au-delà de ceux qui l'ont traversé, Hein, c'est pas seulement d'ailleurs des hommes de lettres, c'est aussi des hommes de science. Einstein, par exemple, a traversé trois fois dans le même voyage. Il a fait des allers-retours en allant en Palestine en 1922. Eh bien, ce canal a inspiré de nombreux auteurs européens, y compris de très grands noms. Hein. Nous avons été surpris nous-mêmes en travaillant sur cet objet de voir que Goethe, le vieux Goethe, a rêvé lui-même sur le tard à un monde qu'on appellerait interconnecté. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, on pourrait citer Robert Solé, journaliste, écrivain, d'origine égyptienne, mais émigré en France à l'âge de 18 ans, hein, dont on connaît la carrière de journaliste au Monde, et qui par ailleurs a donc écrit un certain nombre de romans historiques, par exemple « Sémaphore d'Alexandrie » en 1994, qui met en scène une diversité de points de vue concernant l'emploi des fellahs. Hein. Alors voilà, encore une petite indication concernant ce corpus. C'est un roman contemporain. Nous dépassons un petit peu le corpus, n'est-ce pas, le terminus ad quem, comme on dit, que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire 1975, c'est-à-dire la réouverture du canal à la circulation internationale. Mais c'est parce que le temps de l'histoire dans le roman de Solé nous renvoie à l'époque de la construction de Suez. Donc nous avons voulu aussi tenir compte de textes tout à fait contemporains. Voilà.
Et puis je vous poser une petite question, Sarga Moussa, sur le choix de ces textes, par exemple fictifs, subjectifs. Qu'est-ce qui révèle finalement de plus que ce que les archives officielles ne montreraient pas ?
Alors c'est une très bonne question. La littérature révèle le rêve. Pas seulement, bien entendu, elle révèle parfois le réel aussi, parce que les archives ne disent pas tout non plus. Et évidemment, tout dépend quelles archives aussi.
Oui, quelles archives, exactement.
Quelles archives, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on parle d'archives en Égypte ? Est-ce qu'on parle d'archives en France ? Hein ? Bon, les archives en France révéleront, bien entendu, eh bien, la fabrication du canal, révéleront le règlement, n'est-ce pas, qui a été mis au point par la Compagnie universelle du canal de Suez, révéleront toutes sortes de choses absolument passionnantes. Elles contiennent aussi, bien entendu, des images. Hein, il y a des thèses même qui ont été faites là-dessus, des dessins, des peintures. Mais les archives ne révèlent pas forcément ce qu'on pourrait appeler le grand rêve de Suez, ce qui a constitué une espèce de mythe moderne. Et aussi, bien entendu, sa contrepartie, certains poètes ont magnifié Suez. Et ça, aucune archive historique ne le dit. Il faut écouter les grands écrivains, les poètes, y compris les poètes médiocres d'ailleurs.
Donnez-nous un
illustre inconnu, le vicomte de Bornier, qui nous chante, n'est-ce pas, les vertus du progrès, mais qui dit aussi que le canal de Suez, ça va être une façon évidemment de convertir. Hein, tout y passe, n'est-ce pas, la conversion au christianisme, la prédation véritablement coloniale, la façon de civiliser des sauvages. Et puis, parmi les grands poètes qui ont fait rêver positivement et pas uniquement d'un point de vue naïf comme ce vicomte de Bornier, Suez, il y a le poète américain Walt Whitman avec « Passage to India », n'est-ce pas ? Poème de 1870, donc juste après l'ouverture en 1869, et qui est sans doute le plus exalté sur l'épopée de Suez. On a une véritable mythification et Walt Whitman se conçoit véritablement comme le Virgile des temps modernes. Hein. Et là, je dirais, c'est de la grande poésie qui peut nous paraître naïve, mais qui est magnifique littérairement.
Merci beaucoup pour nous avoir donné quelques indications de lecture. Je reviens sur les textes égyptiens, qui sont des textes inédits qu'on retrouve dans cette anthologie, qui ont été traduits par votre collègue égyptienne Randa Sabri, qui montrent, pour le coup, une toute autre vision du canal de Suez et de son histoire. Et vous parlez d'ailleurs de face sombre, pour vous citer. Est-ce que cette face sombre commence dès le chantier du canal ?
Elle commence dès le chantier, mais elle est minoritaire à ce moment-là. C'est a posteriori que nous la découvrons et il faut la chercher. Sur la face sombre, certains textes égyptiens le révèlent. Alors, qu'est-ce qu'ils révèlent ? Eh bien, ils révèlent le fait que les paysans égyptiens, qu'on appelle les fellahs, ont payé un prix extrêmement lourd. Ce qui est réel, ce qu'on ne sait pas, comme toujours dans des cas comme ça, c'est quel est le nombre réel de morts. Alors voilà, il y a discussion, les historiens ne sont pas d'accord. Et ça va de centaines à milliers. Mais si vous voulez, ce n'est pas peu. Hein, c'est beaucoup de paysans qu'on a dans le cadre de la corvée, hein, c'est-à-dire voilà, la possibilité qu'on avait à l'époque, hein, qu'avaient les vice-rois de se servir des paysans et de les employer à des grands travaux, ben, on allait les saisir par la peau du cou, n'est-ce pas ? Et parfois, en Haute-Égypte, on les faisait venir. Ils marchaient dans le désert parfois très longtemps, ils arrivaient épuisés, ils travaillaient quasiment sans instrument adéquat pour le canal. Je ne dirais pas qu'ils creusaient à main nue, mais c'est presque ça. Et à partir du moment où la corvée a été abolie, on a fait venir des ouvriers européens de Malte, de Corse, d'Italie, de différents pays européens. Et donc, tous les ouvriers ont payé un tribut. Mais ceux qui ont payé le plus grand tribut, c'est les fellahs. Certains sont morts de maladie, d'épuisement, manifestement, on pouvait les fouetter aussi, enfin. Bref, ces faits-là ont été ce qu'on appelle aujourd'hui des subalternes, si on reprend le terme à Gayatri Spivak, c'est-à-dire des sans-voix, c'est-à-dire des gens qui ont été invisibilisés, alors même que le canal n'aurait pas existé sans eux. Et donc, cette prise de conscience, c'est quelque chose qui est relativement moderne, qui est apparu à partir de la nationalisation de la Compagnie de Suez par Nasser et qu'on trouve par exemple dans des poèmes de Salah Jahin, qui fut par ailleurs le parolier de certaines chansons de Oum Kalthoum, la grande diva égyptienne, n'est-ce pas, bien connue, ce qui assura évidemment une diffusion extraordinaire et une fierté retrouvée, mais tardive, tardivement, à ces faits-là.
Il y a quelque chose qui se manifeste comme un traumatisme. Vous diriez qu'il y a un traumatisme dans la mémoire des Égyptiens modernes ?
Je pense que le mot n'est pas galvaudé. Et je voudrais relever dans le texte de Siham Bayoumi les blessures infligées aux ouvriers, parce que ces blessures, évidemment, réelles ou peut-être légèrement inventées ou généralisées. Tous les ouvriers n'étaient pas forcément fouettés, bien entendu, mais elles sont symboliques. Ce sont des blessures qui sont des blessures de l'âme aussi. Mm-hmm. Elles ne sont pas cicatrisées. Et c'est là que nous arrivons à la question du traumatisme qui vous intéresse. J'ajouterais que ce traumatisme, on pourrait le qualifier de transgénérationnel, hein, comme on le dit, d'autres traumatismes, hein, comme on l'a dit à propos de la Shoah, par exemple. Hein. Ce n'est pas pour comparer la Shoah à l'histoire du canal de Suez ou le canal de Suez à la Shoah, mais le mécanisme est le même. Hein. Il y a un traumatisme qui s'exprime parfois après coup, hein, qui se manifeste par un refoulement, qui peut s'expliquer aussi par le fait que ces faits-là eux-mêmes, ils n'avaient tout simplement aucun moyen de s'exprimer. D'ailleurs, ils étaient illettrés. Les paysans, qui constituaient la majeure partie, qui constituent encore la majeure partie de la population égyptienne, à l'époque, ils étaient complètement illettrés. Ils n'avaient donc aucun accès, en réalité, à une parole qui pouvait laisser des traces. Et donc, quand nous lisons aujourd'hui des romans historiques, des poèmes, des chansons égyptiens, eh bien, nous lisons aussi des textes qui reposent sur la mémoire, sur la transmission d'une parole, d'une mémoire orale dont ces écrivains ont été le relais.
Oui, c'est d'ailleurs cette tension entre deux types de récits, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure, ces écrivains européens tels que Flaubert, Gautier, Jules Verne, et vous avez effectivement cité Einstein, qui évoquent le canal avec beaucoup d'admiration, parfois en occultant l'arrière-plan social, en fait, la construction de ce canal, et de l'autre, Certains écrivains parlent de ce chantier du canal de Suez comme la géographie de Dieu refaite par l'homme. Là, on est effectivement dans l'incarnation de cette souffrance évoquée par les Fellahs, qui sont les premiers à avoir subi en fait ce chantier. C'est une image puissante, la géographie de Dieu refaite par l'homme. Que dit-elle finalement du regard colonial porté sur l'Égypte à l'époque,
Sargamoussa ? Absolument. Alors, cette phrase, en effet, elle est extraordinaire. Elle est prononcée par Charles Blanc, qui est un historien de l'art très connu à l'époque et qui avait été invité parmi des centaines d'écrivains, d'artistes, d'intellectuels, de savants, de journalistes, de diplomates européens, par Ferdinand de Lesseps et parfois aussi par le Khedive Ismail, pour l'ouverture des fêtes de Suez. Alors, cette géographie de Dieu refaite par l'homme, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit mille choses. D'abord, ça dit une téléologie, ça dit une théologie et une téléologie. Hein. Une théologie, c'est-à-dire le monde est donné comme il est, Dieu, hein, voilà. Mais l'homme moderne, le nouveau Dieu, Ferdinand de Lesseps, c'est de lui qu'il s'agit, refaite par l'homme. C'est lui qui a formule.
On reviendra nom qui revient systématiquement dans tous les textes choisis.
Par exemple, il existe aussi quelque chose que nous n'avons pas exploité dans l'anthologie, mais qui mérite peut-être d'être dit ici aussi. C'est l'aspect iconographique. Il y a eu des caricatures qui ont été faites à l'époque. Or, les caricatures disent toujours quelque chose de double, n'est-ce pas ? Quand on caricature un grand homme, eh bien, évidemment, on essaye de le dégrader un peu, mais en même temps, on signale sa grandeur aussi, on lui rend hommage indirectement. Et il y a une caricature extraordinaire de Étienne Carjat, où on voit Ferdinand de Lesseps en Hercule moderne, hein, alors il est
figure
habillé, avec une peau de sauvage, pratiquement il a une massue, et puis il a un pied posé sur chaque rive du canal de Suez, et avec ses bras, il repousse le rocher des deux côtés à la fois. Et donc un imaginaire qu'on pourrait dire véritablement eurocentrique, dominateur. Hein. Il faut d'ailleurs, sur ce plan-là, donner raison à Edouard Saïd, qui, dans son célèbre livre « L'orientalisme », considère que le canal de Suez, c'est d'une certaine façon l'apogée de la pensée orientaliste au XIXe siècle. Eh bien, à certains égards, c'est ce qu'on voit hein, dans des formules ou des dessins comme ceci, et dans des poèmes de circonstances, on a évoqué tout à l'heure Bornier, par exemple, et le mythe de Bonaparte aussi, qui est réactivé à ce moment-là, qui d'ailleurs, signalons-le, c'est quelque chose d'assez intéressant et troublant. Bonaparte allait en Égypte en prétendant rendre à l'Égypte la lumière qu'elle avait donnée autrefois à l'Occident.
Oui,
voilà. Il jouait d'une certaine façon sur l'idée qu'il y avait, quelque chose qui avait autrefois appartenu à l'Égypte, hein, sa gloire, mais elle était passée. Et les Français venaient rendre sa gloire légitime à l'Égypte. Au nom de cela, évidemment, on a fait autre chose.
Pour poursuivre sur l'histoire de ce canal, une grande partie de l'ouvrage est consacrée à la période allant de l'occupation britannique, donc en 1882,
c'est ça,
jusqu'à la nationalisation en 1956.
Voilà.
Donc, en quoi cette période révèle-t-elle finalement la lutte pour la souveraineté égyptienne ? Et comment, de votre point de vue, la littérature la reflète-t-elle ? Cette souveraineté.
Alors, la lutte pour la souveraineté égyptienne, s'exprime un petit peu, mais elle est assez vite réprimée, précisément au moment de l'occupation anglaise. Hein, il y a une occupation qui se traduit par une guerre. Hein, donc, les Anglais bombardent Alexandrie, il y a des morts. Hein, donc, c'est très concret. Et disons, le père du nationalisme qui s'appelle Orabi est assez vite exilé hein, sur pression anglaise et on n'entend plus parler de lui. Bon, le nationalisme renaît au début du XXe siècle avec la grande figure de Mustafa Kamel. Le canal de Suez n'arrive pas encore à être véritablement pris dans ses raies à ce moment-là. C'est quand même à partir de Nasser, si vous voulez, que les Égyptiens ont le sentiment de se réapproprier ce qui est leur bien, finalement, puisque c'est sur leur terre, n'est-ce pas ? Il y a eu, non pas tant, semble-t-il, chez les Égyptiens, que chez certains écrivains ou historiens ou hommes politiques ou diplomates occidentaux une prise de conscience de ce qu'il pouvait y avoir d'injuste dans ce canal de Suez qui, en réalité, a été une dépossession pour l'Égypte, n'est-ce pas ? Puisqu'il a été construit par des fellahs, mais petit à petit, les actions que l'Égypte possédait, elle a dû les vendre, parce que l'Égypte s'endettait, elle a dû les vendre à l'Angleterre. Et donc, petit à petit, elle est devenue une proie très facile pour être occupée. Alors, certains écrivains, comme par exemple George Stevens, qui était un journaliste et écrivain anglais, donnent à la fin du XIXe siècle une image magnifique et hallucinée des ouvriers, on les appellerait des dockers aujourd'hui, transportant le charbon. Et on a l'image qui nous vient à l'esprit, c'est que ce sont des damnés de la terre. Je reprends, j'emprunte la formule évidemment à Fanon. C'est-à-dire, il les décrit comme des hommes qui ne se distinguent même plus de la matière qu'ils manipulent. Ils sont noirs, ils sont noircis. C'est une image noire qui arrive devant lui. Il y a, si vous voulez, quelques éléments de critique à l'époque, mais je voudrais préciser aussi que il y a l'inverse aussi, n'est-ce pas ? Qu'il y a globalement un courant favorable au canal de Suez en Occident et quelques exceptions comme ce George Stevens. Il y a à l'inverse, du côté égyptien, un point de vue critique, mais aussi des gens qui ont exalté le canal de Suez. Et l'un des premiers, je tiens à signaler, s'appelle Tartawi, qui est un des pères de ce qu'on appelle la Nahda, le grand courant réformateur qui commence en gros au milieu du 19e siècle en Égypte. Eh bien, Tartawi compose un poème qui est un dithyrambe. Égypte, sois glorieuse et fière, on rouvrira l'antique canal d'Omar. Omar, c'était le premier calife égyptien qui avait essayé effectivement de recréer ce canal de Suez au 7e siècle. Ce travail, œuvre prodigieuse, dont nos aïeux, une fois déjà, ont eu la gloire. Cet isthme, c'est un devoir sacré de le briser, dit-il. Là s'exprime aussi la Nahda, c'est-à-dire tentative de récupérer un héritage profond arabe personnel, mais en tenant compte de l'apport européen, parce que les tenants de la Nahda, c'était des gens qui étaient fascinés par le progrès européen. C'est le cas de Tartawi. Ce poème, je le signale, a été traduit par Nicolas Perron. Il est paru dans un journal qui s'appelait L'Isthme de Suez, et ce journal était le journal qu'on pourrait dire, de, sans exagération, de propagande de Ferdinand de Lesseps.
Ça appartient
Ça appartient au génie de Lesseps, n'est-ce pas, que d'avoir su comprendre qu'il fallait non seulement de la ténacité, convaincre des gens, trouver de bons arbitres qui étaient favorables à lui, comme Napoléon III, mais faire de la propagande. Mm-hmm. Et ce journal, il l'a été, évidemment.
Le canal devient ici le symbole d'un pays qui se voit refuser la maîtrise de son territoire, jusqu'à la rupture même de 1956. Est-ce que cette date, 1956, marque une reconquête aussi symbolique que politique, Sargamoussa ?
Oui, on ne peut pas éviter de parler de rupture à ce moment-là. 1956, c'est un coup de tonnerre extraordinaire, qui a d'ailleurs déclenché une guerre. Donc, ça montre bien ce que ça a représenté.
Qu'on a tendance à oublier, d'ailleurs, parce que finalement, c'est quand même un bout d'histoire qu'on ne réévoque.
Oui, qu'on appelle encore par euphémisme les événements de Suez. Que les Égyptiens appellent parfois aujourd'hui encore la triple LH. La triple LH, sous-entendu agression. C'est-à-dire le fait que les Anglais, les Français et les Israéliens se sont alliés pour attaquer l'Égypte. Au moment où Nasser a proclamé la nationalisation, non pas du canal, comme on le dit parfois par simplification, mais de la compagnie de Suez. Bon. Alors, pourquoi est-ce une rupture ? Eh bien, évidemment, c'est ce célèbre discours que Nasser a tenu à Alexandrie le 26 juillet 1956, où il revendique le droit des peuples à disposer de leurs ressources. On est vraiment, il faut replacer ça dans le contexte de l'époque, à la fois la conférence de Bandung en 1955, les pays qu'on appelait du tiers-monde, qui revendiquaient évidemment une autonomie, qui défiaient l'impérialisme européen. Et ce que je voudrais dire ici, c'est que Nasser, bien entendu, avait des opposants. Il en a mis en prison, les communistes en particulier, il ne les aimait pas du tout. Eh bien, même certains de ses opposants ont applaudi à cette nationalisation. Ce discours a fait l'unanimité parce qu'il a redonné aux Égyptiens le sentiment d'une fierté qu'on leur avait soustraite, n'est-ce pas ? Et je signalerai des textes que nous avons reproduits sous forme d'extraits de deux sœurs, Eflatun, communiste et féministe. Ces textes sont en partie déjà traduits. Nous les avons fait traduire pour l'anthologie. Eh bien, ces deux sœurs ont applaudi à ce que faisait Nasser, alors même qu'elles avaient subi sa sévérité et qu'elles en étaient victimes. Donc, c'est dire à quel point Nasser a répondu à quelque chose qui a été très profond dans le peuple égyptien. Ma collègue Randa Sabri, professeure à l'Université du Caire, nous avons fait ensemble une présentation à l'Institut français d'archéologie orientale, mais elle a aussi fait une présentation dans un autre cadre où elle a réuni des descendants des personnes qui ont été traduites, qui sont dans l'anthologie. C'est quelque chose qui est tout à fait extraordinaire. Il y a même des personnes qui avaient 16 ans en 56, qui sont encore vivantes, qui sont venues et qui entendaient qu'on leur parlait de leur histoire. Du coup, ils ont écrit des textes, ils se sont exprimés sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Ils sont heureux, tout simplement, qu'on se souvienne d'eux, n'est-ce pas ? Et là, il y a comme une sorte de fierté retrouvée au second degré. Ça ne veut pas dire que tous les Égyptiens d'aujourd'hui sont des Nassériens, mais ça veut dire qu'ils sont heureux que leur histoire, cette histoire qui est aussi la nôtre, bien entendu, une histoire collective, une histoire croisée, une histoire commune, mais dans laquelle ils ont joué un rôle important, se retrouve dans un livre publié en France, en français, traduit, et donc avec un sentiment, là aussi, de dignité qui se manifeste aussi dans des comptes rendus et des entretiens que Randa Sabri a déjà donnés, y compris au grand quotidien Al-Ahram, qui existe depuis plus de 100 ans, qui est le grand quotidien officiel, un peu l'équivalent du Monde, on va dire, en Égypte, même si c'est un journal, on va dire, très officiel, mais disons par son audience. Et ses comptes rendus sont très élogieux.
Plus grande réception
mais oui, il faut traduire ça en arabe maintenant. Donc c'est tout à fait extraordinaire pour mes collègues égyptiens et j'en suis très heureux.
Nous pourrions en rester longtemps à regarder chaque texte, Sargamoussa, mais si vous aviez un seul texte à recommander à nos auditeurs parmi ceux qui sont réunis dans cette anthologie, lequel choisiriez-vous et pourquoi ?
Alors, c'est une très bonne question, une question très difficile. D'autant que le principe de l'anthologie, c'est celui de la mosaïque.
Oui,
alors, la mosaïque, c'est le contraire de, n'est-ce pas, de la focalisation sur un objet ou un texte. Bon, mais puisqu'il faut bien faire des choix, alors je proposerais de mettre en avant un poème magnifique, et sans doute très peu connu des lecteurs français, qui s'intitule simplement « Le canal de Suez », qui a été publié en 1921 par Nikolai Goumilev, qui est un poète symboliste russe, et qui a été traduit, magnifiquement traduit en français, par une collègue suisse qui s'appelle Corinne Fournier-Kiss.
Est-ce que vous pourriez nous lire un petit extrait de ce poème ?
Mais oui, avec plaisir. C'est un poème surprenant parce que, au fond, l'environnement de Suez d'habitude, auquel on pense spontanément, auquel les peintres ont essayé de répondre, ils ont essayé de répondre à ce défi, c'est le désert. Du côté de part et d'autre, c'est plutôt désertique. Eh bien, que fait Goumilev ? Eh bien, il célèbre. C'est un hymne à la vie. C'est un hymne à la vie. Alors, je lis les quatre premiers quatrains, tout simplement. « Des nuées de jour et de nuit m'ont entraîné dans leur magie. » Mais il n'y en a pas de plus lumineuse que celle du canal de Suez, où voguent les navires, pas sur la mer, sur des flaques d'eau, au milieu du désert comme une caravane de chameaux. Que d'oiseaux, que d'oiseaux ! Ici, sur les versants rocheux, oiseaux de conte bleu, aux pattes longues, aux jabots globuleux, on peut voir, vert doré, des lézards en essaim, comme si sur le rivage, avait givré les éclaboussures des embruns marins.
Très beau poème, merci beaucoup Sargamoussa pour cet échange riche et passionnant sur cette anthologie du canal de Suez, littéraire et politique. Et merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. Talim Sanim.